C'est une petite sélection de ce qui se passe sur le web quand on y regarde de près. De la voyance, des complotistes, des ados en quête d'évasion et d'étranges prisonnières, un florilège. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
Au début, on avait pensé appeler cette émission « La petite fille qui croyait tout ce qu'on lui disait ». Tellement, vous verrez, Nouata semble avoir besoin de croire, envie de réponse. On s'est demandé au passage si c'était vraiment nécessaire de déconstruire toutes les croyances infondées. Et si ça les aidait, les gens, de croire que la Terre est plate, quel mal y aurait-il ? Et puis, on s'est dit que non. Le vrai sujet de son histoire, c'était plutôt les bulles de filtre dans lesquelles Nouata s'est trouvée piégée. C'est-à-dire la sélection par les algorithmes et par nous-mêmes de contenus, d'informations et d'amis qui, à la fin, disent tous la même chose. Et créent donc une bulle d'isolement intellectuel. Mais la réflexion, ça nous a semblé un peu réducteur, technophobe. Alors on s'est dit que la vraie question que posait son récit, c'est de savoir si les complotistes, ce sont vraiment des personnes complètement folles qui croient à toutes les théories du complot. Ou parfois juste des gens curieux, naïfs, qui voient qu'il y a tout de même quelque chose qui cloche dans notre monde. À la fin, c'est la troisième enquête de Jeanne Maier sur le net qui a rencontré Nouata sur YouTube. Ça parle de tout ça en même temps et ça s'appelle « Nouata et les algorithmes, clou de girofle et complotiste ».
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Nouata, j'ai 34 ans. Je vis à Munich depuis une dizaine d'années. Je suis maman galérienne de deux enfants, de 11 ans et 7 ans. J'ai grandi en Lorraine, du côté de Sarreguemines, donc du côté un petit peu Strasbourg, Metz, Nancy, par là-bas. J'étais une petite fille relativement triste et seule, parce que j'ai eu une enfance très, très, très compliquée, avec une maman qui a usé 28 ans de violence psychologique. Je me réfugiais beaucoup, beaucoup dans les livres, que ce soit les sciences et vie junior, que ce soit des Tom Tom et Nana, ou tout et n'importe quoi, des romans, etc. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. Ça me permettait de, parfois de lire des histoires finalement assez tragiques, mais de voir qu'elles se finissaient bien. Et de voir aussi que, ben, on peut évoluer dans un monde violent, sans pour autant devenir quelqu'un de détestable. Notamment, par exemple, je le dis souvent, Harry Potter, c'est un bouquin qui a sauvé ma vie. Parce que j'ai découvert à 11 ans, un petit garçon de 11 ans, malmené par son oncle et sa tante, pas tout à fait de la même manière que moi par ma mère, mais malmené quand même. Et ce petit garçon était malgré tout resté quelqu'un de très gentil, puis qui finalement a sauvé le monde des sorciers. Donc la lecture a toujours été très importante, et elle l'est toujours encore aujourd'hui. Je lis encore beaucoup. Et quand j'étais petite, j'étais très très naïve, et puis mon petit frère l'avait très très vite remarqué. Il me racontait toutes sortes d'histoires abracadabrantesques. Et moi, je tombais dedans sans chercher à comprendre. Par exemple, un jour, mon frère m'a dit qu'il a passé la nuit avec ce basketteur de l'époque, Michael Jordan. J'ai des copines qui m'ont dit avoir rencontré, encore une fois, des gens assez célèbres de l'époque, Alizé, des choses comme ça. Et je les croyais, quoi. J'ai commencé à penser qu'on n'était pas seul dans l'univers vers à peu près 13-14 ans. Parce que je vais commencer à lire les journaux, en fait. Et assez régulièrement, chaque été en Lorraine, on a ce qui s'appelle les marronniers, donc c'est quelque chose qui revient à chaque saison dans les journaux. Et donc, nous, on a nos crop circles.
Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est le 19-20, bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité lorraine de ce jeudi, les étranges formes géométriques qui sont soudainement apparues dans un champ de blé d'un petit village de Moselle. Les spécialistes appellent cela des crop circles, un phénomène qui attire des curieux venus...
Les crop circles, on appelle ça aussi des cercles de culture. Ce sont des dessins qui apparaissent mystérieusement dans les champs de blé et qui sont des messages laissés par les extraterrestres pour nous ou pour certains élus selon les versions. Et comme c'est des journalistes qui le disent, bon, il n'y a pas vraiment de raison que ce soit faux en fait. Ce que j'aimais beaucoup avec les aliens, c'est qu'ils apportaient ce côté espoir. C'était cette forme de vie très très avancée, donc forcément, évidemment, très très intelligente, qui viendrait... entre guillemets, nous mettre un coup de pied au cul pour nous dire, écoutez, maintenant, il faut arrêter, il faut aller dans le droit chemin, parce que là, ce que vous faites, c'est pas bien. Et évidemment, quand on grandit dans beaucoup, beaucoup de violence, on a besoin de cet espoir-là, que les choses un jour s'améliorent. Et comme elles s'améliorent pas dans la vraie vie, bon, bah, moi, je suis allée chercher cet espoir-là avec les extraterrestres. J'ai quitté la Lorraine à l'âge de 20 ans, parce que je vais rencontrer un blond aux yeux bleus. On va s'installer ensemble très très vite, hein. On avait 20-21 ans. Donc il y a 10 ans, j'arrive à Munich avec un bébé de 6 mois et puis son papa. Et très très rapidement, je vais me rendre compte que c'est pas du tout comme en France. Déjà, les médecins ont le droit de faire leur pub. Donc quand je vais dans le métro, j'ai des publicités pour des médecins. Mais il y a des publicités aussi pour des choses que je ne connais pas, qui ont des noms un petit peu bizarres. Ça peut être des choses comme l'ostéopathie, le reiki, l'acupuncture, des choses comme ça. Et un jour, je vais avoir très très mal aux dents. Et mon dentiste ne peut malheureusement pas me recevoir tout de suite ou très très vite. Sauf qu'une rage de dents, bah, c'est une rage de dents, ça fait très mal. Et je vais me dire, ok, il y a toutes ces médecines un petit peu bizarres ici, ces médecins différents à Munich, il y a peut-être quelque chose qui va pouvoir t'aider. Donc je vais sur Internet.
Je m'appelle Madalina et ensemble avec ma collègue Karine, nous sommes heureuses de vous retrouver.
Et je vais découvrir l'huile essentielle de clou de girofle.
Nous continuons la success story avec les huiles essentielles et leurs parfums bienfaisants.
Ça a très très rapidement soulagé la rage de dents en quelques secondes. Donc j'étais tout de suite conquise. Les huiles essentielles, c'est génial, ça marche.
Eh bien oui,
les huiles essentielles, elles sont rapidement devenues la médecine à la maison et je soignais tout ce que je pouvais. Qu'on parle de problèmes psychologiques, qu'on parle d'un rhume.
De bien-être et de détente. Les huiles essentielles sont des
Je prenais des huiles essentielles pour la dépression, je prenais des huiles essentielles pour rester calme, parce que j'ai deux enfants, donc des fois il faut rester calme. J'avais tout un kit spécial pour l'hiver, j'en avais pour les allergies, j'en avais pour la peau, pour les cheveux. Il y en avait vraiment pour tout. Il y en avait jusque dans le produit vaisselle qui était fait à base d'eau, de vinaigre, de bicarbonate de soude et d'un petit peu d'huile essentielle. Il y en avait vraiment partout et je soignais absolument tout ce que je pouvais.
Nos huiles essentielles peuvent vous aider.
C'est d'ailleurs un des problèmes, entre guillemets, avec les huiles essentielles, c'est qu'elles prétendent pouvoir absolument tout soigner, jusque parfois des cancers, des choses graves comme ça. Ma fille avait 2-3 semaines, elle va tomber malade, elle va attraper une bronchiolite. Et donc, moi, je voulais la soigner toute seule, comme une grande, avec mes remèdes miraculeux, avec les huiles essentielles. Et puis, je vais devoir me décider à l'emmener chez un pédiatre, parce que elle pleurait beaucoup, elle ne dormait plus, elle était complètement encombrée, et j'avais très, très peur, quoi. Et quand on l'emmène chez la pédiatre me dit, écoutez, vous me l'auriez amené 2-3 heures plus tard, on la perdait, on pouvait plus rien faire pour elle. Et ce jour-là, j'ai pas du tout remis en cause les effets médicaux des huiles essentielles. Au contraire, je me suis dit, heureusement que j'avais ces huiles essentielles, parce que ça lui a permis de tenir plus longtemps, de respirer plus longtemps, et donc ça lui a sauvé la vie. Un jour, je me promenais dans un parc, dans Munich, et puis j'ai vu quelqu'un faire un câlin à un arbre. Alors sur le coup, je me suis marrée. Et comme je suis quelqu'un d'assez curieuse, en rentrant à la maison, j'ai tapé ça dans mon moteur de recherche et c'est comme ça que je découvre qu'en fait, il y a des croyances autour de ce qu'on va appeler soit Gaïa, soit Mère Nature, soit l'entité Terre. Après, ça va dépendre des différentes croyances, etc.
Bonjour, je m'appelle Olivier.
Moi, c'est Stéphane.
Romain.
Sylvain.
Et Vincent.
Nous sommes tous frères et nous sommes les fondateurs de Gaïa Méditation, dont la mission est de contribuer à l'élévation du niveau vibratoire de la planète à travers chaque individu.
Et j'ai lu que ça pouvait faire du bien de faire un câlin à un arbre.
En 2010, où mon moral était au plus bas, un soir de grande tristesse, je me suis posée sur mon lit.
Comme moi, j'étais assez isolée. Enfin bon, j'avais des amis, mais je me sentais quand même assez seule parfois sur Munich.
La méditation a véritablement changé ma vie sur tous les
plans. Je me suis dit, je vais essayer, et puis j'ai kiffé.
En 2014, j'ai reçu un appel fort de Gaïa pendant
plusieurs semaines. Je me suis mise à marcher pieds nus dans la nature, à essayer de me rapprocher un petit peu de la nature. C'est une période aussi où, pas tout de suite, mais plus tard, c'est ce qui va un petit peu m'amener aussi à arrêter de manger de la viande. Et encore une fois, ce sentiment d'une part de solitude et puis aussi cet espoir dont j'ai besoin que le monde aille mieux un jour, ça va nourrir un début de croyance en fait dans cette entité Gaïa. Il faut voir ça un petit peu comme une immense toile d'araignée où tout est lié, quoi.
Nous allons un petit peu regarder comment nous évoluons énergétiquement parlant et spirituellement parlant avec les éléments naturels de Gaïa.
Véganisme, les croyances New Age, où il y a beaucoup de nature aussi, etc. Il y a beaucoup de portes qu'on peut pousser qui vont mener à d'autres portes, et puis tout est un petit peu lié.
En travers les régimes, à travers la perte de poids, les sucres, les graisses, les protéines, combien de grammes il faut manger de prot, combien de grammes il faut manger de tout ça. Je crois que c'est le
sujet. Et très très rapidement, sur les réseaux sociaux, on peut se retrouver dans ce qu'on appelle une bulle de filtre. Toutes les informations qui vont arriver jusqu'à vous, ça va être principalement, et ensuite ça va n'être plus que ça, des informations qui vont dans votre sens. Ce sont vos idées, ce sont vos croyances.
Merci pour la chaleur.
Et vous n'allez avoir plus que ça. Merci. Vous allez avoir des gens qui vont vous proposer de vous ajouter comme amis, vous allez ajouter d'autres personnes, vous allez suivre des comptes ou des chaînes YouTube. Et les algorithmes, très très rapidement, ne vont vous proposer que ce qui va dans votre sens. Et vous n'aurez absolument plus de contradictions, et ça, c'est un très gros problème.
Merci, maman la Terre. Merci pour les salamandres.
Alors, mes contenus à moi, c'était principalement des personnes qui étaient végétariennes ou véganes. Parce qu'il se trouve que j'ai été cyberactiviste dans ce domaine-là pendant près de 4 ans et que j'avais accumulé près de 2300 contacts Facebook qui ne sont quasiment que d'autres militants ou militantes pour les droits des animaux humains et non humains. Et donc, il y avait beaucoup, beaucoup de pseudo-sciences, de complots, de pseudo-médecine, de choses liées à la nature, aux croyances New Age.
Salut, Lumière Infinie. Bonjour, Grande Lumière. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, parce que on parle d'alimentation, on parle de nutrition, on parle de qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. C'est simplement des animaux qu'on a tués et qu'on ingère après. Donc si tu veux, ces corps-là, ces corps sans vie, morts, tu viens les mettre dans ton corps à toi. Donc tu mets de la mort dans le vivant. Déjà, il y a un truc un peu bizarre là-dedans. Tu me diras, c'est un peu la même chose aussi avec les légumes. Tu les arraches, tu enlèves les racines et tu les tues.
Alors attention, je suis pas en train de dire que tous les véganes et les végétariens sont dans des croyances New Age, des complots ou des croyances liées à la médecine. Malgré tout, je continue d'être végétarienne parce que les pauvres animaux n'y peuvent absolument rien. C'est une période où je suis fatiguée, où c'est compliqué avec les enfants, compliqué avec l'ex-mari. Et puis comme je suis militante, de toute façon, moi j'aime beaucoup les réseaux sociaux, donc j'y passe beaucoup de temps. Il y a quelques posts Facebook qui vont m'emmener sur des blogs ou des sites internet sur lesquels les vertus fantastiques des huiles essentielles sont vantées encore et encore. C'est à ces endroits-là que je vais commencer à avoir des débuts de pièces de puzzle qui vont être ensuite liées au complot.
Bonjour, c'est un plaisir.
Il va y avoir des petites choses comme ça. Je ne veux pas trop y croire au début, mais je vais lire des choses comme ce qui est chimique, c'est pas bien, qu'on parle de nourriture ou de médicaments.
Quand on voit que le marché du cancer actuellement, c'est 300 milliards de dollars par an, on imagine bien qu'il y a aussi des intérêts là-dedans qui ne sont pas anodins. C'est comme la question de la vaccination.
Mais je vais lire que les médecins ne soignent que les symptômes et puis que de toute façon, ils s'en foutent parce que si vous êtes en bonne santé, vous venez pas au cabinet. Je vais lire plein de petites choses comme ça qui sont complètement fausses.
On n'a pas besoin de la désinguer avec de la mort au rat, ta tumeur, pour qu'elle disparaisse. Les effets secondaires de la consommation de pastèques, globalement, je vais te dire, c'est un grand sourire et une satisfaction, surtout si elle est bonne et qu'elle vient du sud de la France, une satisfaction totale. C'est ça les effets secondaires.
Et puis un jour, il va y avoir quelque chose qui va parler de Big Pharma. Big Pharma, donc, c'est un complot mondial qui dit qu'il faut que nous, on reste malades. Et donc les scientifiques, les médecins et puis plein d'autorités comme ça se mettent ensemble pour qu'on soit bien malades, pour pouvoir nous vendre plein de médicaments. Puis je vais faire le lien avec toutes ces choses un petit peu bizarres que j'avais lues sur les blogs ou les sites internet. Et je vais me dire, évidemment, bien sûr que oui, ça colle. Ça peut être que vrai.
Apollo 11 est propulsé dans l'espace pour une odyssée de 400 000 km jusqu'à la Lune.
Quand on commence à se renseigner sur un complot, donc moi j'ai commencé à me renseigner sur Big Pharma, on a encore une fois les algorithmes, les bulles de filtre qui font très très bien leur travail, et donc je vais avoir d'autres théories du complot qui vont arriver jusqu'à moi. Notamment par exemple le complot du 11 septembre, qui explique en long et en large pourquoi en fait c'est un complot organisé par les États-Unis. Très 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 vite, j'avais énormément de choses qui arrivaient à moi en termes de complot.
Se sont-ils vraiment posés sur la Lune ?
Alors, le complot sur la Lune, je vous avoue franchement, j'ai eu un petit moment comme ça de quelques semaines ou quelques petits mois, je me suis dit, on n'y est pas allé. Je vais très très peu essayer de convaincre mon entourage. D'abord parce que ces croyances-là, comme à l'époque avec les aliens et puis les crop circles, par peur qu'on se moque de moi, je vais beaucoup garder ça pour moi. Je vais en parler à mon ex-mari, qui est scientifique en plus, il est chercheur en volcanologie. Il va me dire oui, mais non, mais voilà. Il faut pas croire que parce que on a étudié la science, parce que on est médecin ou parce qu'on a un prix Nobel en physique ou quoi, qu'on ne peut pas tomber dans des croyances. ou que c'est facile pour autant de dire aux autres « Écoute, là, je crois que tu fais une erreur ». J'étais pas du tout poreuse au peu d'arguments rationnels qu'on me donnait. J'avais toujours une meilleure réponse à apporter. Ma préférée, c'était « Oui, mais tu sais, la science, là, elle dit ça, mais elle a pas compris. Un jour, peut-être qu'on saura ». Ce qui n'était pas tout à fait faux, puisqu'on dit que quelque chose est vrai jusqu'à preuve du contraire. Il y avait cette sensation parfois un petit peu de puissance, entre guillemets, et puis de contrôle, parce que ben moi je sais des choses et les autres pas. Et moi j'ai raison et les autres c'est des moutons. Si je devais donner une seule explication à pourquoi toutes ces croyances, j'en avais besoin. J'assume les croyances que j'ai eues, pas de problème là-dessus. Je me suis moi-même jamais considérée comme une complotiste. D'ailleurs, c'est assez général, les complotistes ne se considèrent pas comme des complotistes. D'autant que j'avais une définition, enfin une vision des complotistes à l'époque qui n'était pas du tout celle d'aujourd'hui. Il y a 4-5 ans, pour moi, un complotiste, c'était quelqu'un d'un petit peu illuminé, éventuellement avec des problèmes psy, enfin voilà, avec des croyances complètement infondées. Et il y a 4 ans de ça, je vais quitter Munich pendant une année pour aller vivre avec un autre chéri. Et un jour, il va venir me voir et puis il va me dire « Il y a une série de vidéos là sur les crop circles. Il y en a 3. Est-ce que tu veux voir ça ?» Je dis « Bah, bien sûr. » Et là, je vais prendre une claque.
Je m'appelle Arnaud et j'habite près de Sarrebourg, en Moselle. Depuis une vingtaine d'années, des crop circles apparaissent dans la région avec une concentration et une régularité uniques en France. Au fil des années, j'ai rencontré, au hasard de mes visites de crop circles, de plus en plus de gens convaincus qu'ils ne sont pas d'origine humaine. Aujourd'hui, je vous livre les résultats de l'enquête que j'ai réalisée cet été. Mais ce que je vais vous dire maintenant ne va pas plaire à tout le monde. Alors c'est parti. Quand je regarde la plupart des crop circles, j'y vois des dessins abstraits, juste pour la beauté du graphisme. Alors on va faire exactement la même chose. Bon, clairement, j'arriverai pas à faire ça tout seul. Il va donc me falloir de l'aide, et pour ça, je vais faire appel à quelques spécialistes du paranormal, des fakes et des idées reçues. Il y a Christophe, d'hygiène mentale, Pierre-Antoine, d'un Mondrian, le défécator, Patrice, qui a pour habitude d'enquêter sur les crop circles en France, et pour finir, il y a Thomas, de la tronche en biais. Une fois la nuit tombée, nous nous rendons dans le champ. Si on avait réalisé ce crop circle sans tourner de vidéo, la seule lumière de nos petites et discrètes lampes frontales nous aurait suffi. Mais si on n'avait pas filmé la création du crop circle, on nous aurait accusé d'être des affabulateurs et de ne pas vraiment en être les auteurs. On a donc décidé de voir les choses en grand et de faire venir une équipe de tournage armée d'une caméra haute sensibilité et d'un drone. La tâche se révèle plus facile que prévu. Écraser du blé, ça va vite. Une fois le contour tracé, PA et défécateur se chargent d'en faire l'intérieur. Comme des enfants à qui on demande de faire un coloriage sans dépasser les bords. Et on enchaîne comme ça. Pendant qu'une partie de l'équipe remplit un cercle, une autre partie de l'équipe trace le contour suivant.
Ok, donc là on a fait 10, 10, 5, 10. C'est ça, hein? Ah. Ok, ils sont en train d'applaudir celui-là. Donc là, on va faire 2,50 et derrière, tu vas me prendre 2.
Et c'est une bande de sceptiques qui est allée faire un crop circle. Ils ont mis certains journalistes dans le coup, notamment par exemple le Républicain Lorrain. Puis ensuite, ils ont attendu les réactions. Ils ont tout filmé. Et ce qui est assez incroyable, c'est de voir que des gens qui ont en face d'eux la vérité, et bah, ils continuent à croire, quoi. Si on leur dit, bah, regardez, là, j'ai le téléphone, je vous montre, je suis en train de faire le crop circle là dans lequel vous êtes, c'est pas étonnant d'entendre des gens dire, bah non, vous mentez, c'est un trucage vidéo, ce crop circle là, mon pendule, ma petite machine là, elle dit qu'il y a quelque chose d'extraterrestre qui est venu. Je vais voir les vidéos et assez vite, je vais comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas dans le sens de mes croyances à moi. Donc je vais aller sur YouTube, je vais regarder les vidéos qui sont en recommandation, et ce sont des gens qui parlent d'esprit critique. C'est difficile de donner une définition de l'esprit critique, il y a à peu près autant de façons de le vivre et de le percevoir que de recettes de lasagne. Moi je dirais que c'est une volonté de faire le tri dans mes informations et de bien faire la part des choses entre ce qui tient du réel, de la connaissance d'un côté et de l'autre côté ce qui tient du folklore, de la fantaisie, des mythes, des croyances, etc.
L'esprit critique, tout le monde en parle, et pourtant, savez-vous réellement de quoi il s'agit ? Neurosciences, philosophie ou encore psychologie et sciences de l'éducation étudient l'esprit critique depuis des décennies.
Comment fonctionne notre cerveau ? Et je vais kiffer tout de suite, en fait, parce que je vais retrouver la science, tout simplement. Je vous disais que j'adorais la science enfant, que je l'ai lâchée au collège parce que c'était très compliqué. Grâce à toutes les choses que je vais apprendre, que ce soit les outils, les méthodes, ou que ce soit, par exemple, au niveau de la médecine, les choses telles qu'elles sont vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ma manière d'aborder l'information, de comprendre l'information, d'analyser l'information. Et moi, j'ai des croyances que j'ai lâchées assez facilement et d'autres qui ont été très difficiles, qui ont pris du temps avec beaucoup de déconstruction. Il faut faire attention avec les croyances des gens parce que s'ils n'ont que ça à quoi se raccrocher et qu'on leur enlève, qu'est-ce qui se passe ? Bah, ils se cassent la gueule en fait.
Les reptiliens, les Illuminati, la Terre creuse, la Terre plate, les extraterrestres, les fantômes, tout ça, c'est de la rigolade. Il existe une parenthèse, une bulle, un univers dans lequel une tonne de gens affirment avec beaucoup de certitude plein de trucs à nous en faire tourner la tête. Qui croire, qui pas croire, et surtout comment savoir qui et que croire.
Mr. Sam, c'est un vidéaste que je vais découvrir sur le tard. Je vais mettre quasiment 6 mois, alors que finalement c'est un des leaders dans ce domaine-là sur YouTube. Moi j'adore, c'est quelqu'un de très sympathique, donc je vais adhérer assez vite. Après 3 ou 4 vidéos, il va y avoir une vidéo où Mr. Sam va dire quelque chose qui ne me plaît pas. Il va dire l'aromathérapie est une fake med.
Il y aurait la médecine conventionnelle, une espèce de gros bulldozer, et sa petite sœur, une espèce de vélo en bois. Elle est un peu moins efficace, mais elle est beaucoup moins intrusive. On entend souvent qu'elle n'a pas d'effet secondaire, etc. Il n'est pas forcément vrai. Alors c'est quoi la médecine conventionnelle ? C'est les méthodes les plus lucratives ? Ah, la peur du complot de Big Pharma, des méchants lobbies qui ne pensent qu'au profit. Mais les copains, vous pensez vraiment que la médecine alternative, elle fait moins de bénéfices que la médecine conventionnelle ?
Et à ce moment-là, je vais avoir une réaction très très forte et vive. C'est quoi ce sceptique en carton qui raconte n'importe quoi ? Alors je vais même lui laisser un commentaire absolument abominable avec des sources complètement moisies. Ce qu'il va dire là, je vais pas du tout l'accepter parce que ça voudrait dire, si l'aromathérapie est une fake med, que j'ai pas du tout sauvé ma fille il y a quelques années, mais qu'au contraire, je l'ai même mise en danger. Avoir fait du mal à ma fille, c'était quelque chose d'absolument intolérable pour moi. Donc ça ne devait pas être vrai. C'est même pas que ça pouvait pas être vrai, ça ne devait pas être vrai. Et je ne vais plus entendre parler de lui pendant quelques semaines. Enfin, ça, c'est ce que je crois. Moi, j'ai un syndrome de stress post-traumatique dû à mon enfance très violente. Et donc, j'ai la mémoire toute cassée aussi. Et j'ai cette habitude, quand quelque chose est un peu violent, de l'oublier. Et je cherche autre chose et puis on va me renvoyer chez lui, en fait. Et comme je l'ai oublié, et ben, ça va bien se passer, quoi. Cette vidéo-là que j'ai vue qui m'a choquée, je ne vais pas la re-regarder puisque il y a la barre rouge en bas sur les vidéos qui indique que je l'ai déjà vue. Je vais regarder le reste, mais je ne vais même pas me rappeler de lui. C'est ça qui est dingue.
Comme je vous ai dit, une affirmation se vérifie uniquement grâce à ses arguments contre. Mais s'il n'est pas possible...
Je vais apprendre beaucoup de choses sur sa chaîne, des méthodes, des outils... Des clichés qui tombent sur le nucléaire, sur la médecine, sur le transhumanisme aussi, par exemple.
C'est de se demander si avec la même méthode, on peut prouver exactement l'inverse.
Jusqu'à ce qu'un jour, je retombe sur cette vidéo. Là, j'ai bugué. Je me suis dit, c'est pas possible. L'autre qui racontait n'importe quoi, qui était un sceptique en carton, c'est le même, là, celui qui est super pertinent, qui a une chaîne vraiment incroyable. Et en fait, à ce moment-là, la deuxième fois, j'ai plus le choix. Il y a plusieurs semaines qui sont passés, beaucoup de contenu qui a été regardé et lu aussi, et je l'accepte par argument d'autorité, hein. C'est-à-dire que c'est un sceptique sérieux qui a travaillé le sujet qu'il dit, ce sceptique il m'a prouvé que je peux lui faire confiance, s'il me dit que l'aromathérapie c'est une fake med, c'est une fake med. Tout ça, ça se passe en un quart de seconde dans ma tête, hein, et je vais très très rapidement me retrouver en boule sur mon canapé, en pleurs, parce que je pense à ma fille que j'ai mis en danger, quoi. Et ça, c'était insupportable. Donc après avoir entendu une deuxième fois chez Sam que l'aroma est une fake med, je vais arrêter, tout de suite. Je ne vais plus prendre aucune huile essentielle, ce qui a été une erreur. Les effets placebo pour la dépression, pour le sommeil, pour rester calme, l'anxiété, etc., fini du jour au lendemain. Et voilà, ne connaissant pas l'effet placebo, au bout de 3 semaines, 1 mois, ça commence à aller très 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 mal. Et puis plus le temps passe, plus les semaines passent, pire c'est, je retombe complètement en dépression, je vais commencer même à avoir des idées noires et à penser à des choses un petit peu horribles. Là, je vais repenser à ma mère, à ses 28 ans, où elle a été d'une violence sans nom envers moi, où elle m'a humiliée, où elle m'a insultée, et je me dis, mais elle avait raison. Qu'est-ce que t'as fait là ? Tu as mis ta fille en danger pour une croyance, quelque chose que t'as pas vérifié, t'as cru des gens comme ça, t'es dangereuse, tu dois pas avoir d'enfant.
Salut, c'est Noata, aka Si c'est faux sur YouTube, je suis geek, sceptique, mais pas que. Avant tout, un immense merci pour l'accueil incroyable que vous avez réservé à ma première vidéo.
Il y a un an et demi, j'ai ouvert ma propre chaîne YouTube pour rejoindre ceux qui allaient devenir finalement mes collègues dans ce combat-là. Donc la chaîne s'appelle Si c'est faux, mais peut-être que c'est vrai, ça s'écrit C-Y-S-S-E-E-P-H-O. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc sur cette chaîne, je vulgarise les outils et la méthode de la pensée critique. Je parle un petit peu de science. J'ai fait 2 vidéos pour casser les clichés sur la médecine, la phytothérapie et la chimie, qui sont un petit peu mes 2 vidéos, entre guillemets, purificatrices, qui mettent vraiment un terme à la croyance Big Pharma, puisque j'y attaque justement beaucoup de croyances qui sont liées à ce complot.
Aujourd'hui, je vous propose de casser ensemble les mythes que voici. La phytothérapie est une médecine alternative et douce. La médecine, c'est chimique. La chimie n'apporte rien de bon aux médicaments. Les médecins ne prescrivent pas de placebo ou de plantes. Et la médecine ne traite que les symptômes.
Ces vidéastes qui m'ont beaucoup apporté et qui sont aujourd'hui des collègues, ils me donnent une raison de me lever le matin, c'est-à-dire les rejoindre, entre guillemets, dans la bataille pour essayer de faire changer les choses. Mais ça ne remplace pas une croyance en un dieu ou une entité, ou voilà, quelque chose qui est toujours là. Moi, j'ai une sorte de vide. Il y a des moments où, qu'est-ce que j'aurais besoin d'une huile essentielle ? Ou qu'il y ait des aliens qui soient là et qui veillent sur nous, ou qu'une entité terre veille sur nous. J'ai toujours pas trouvé de choses pour les remplacer. Je pense que ça fait à peu près 2 ans que je suis sortie vraiment des grosses, grosses croyances. Tout ce qui est homéopathie, aromathérapie, médecine traditionnelle chinoise, etc. Tout ce qui est complot. Mais pour ce qui est des aliens, ok, ils font pas les crop circles, enfin en tout cas c'est mon avis. Par contre, j'ai pas lâché l'idée que potentiellement il y en ait quelque part, très très loin, ou qu'il y en ait eu, ou qu'il y en aura. Je m'intéresse beaucoup au paranormal et au surnaturel parce que je la veux, moi, cette photo de fantôme, cet enregistrement. Je le veux, ce morceau de vaisseau alien. Je veux la preuve. Bon, elle vient pas, mais ça veut pas dire qu'elle viendra pas. J'y crois à fond. J'ai gardé cette envie d'y croire. Je dis souvent « I still want to believe ». Voilà, c'est quelque chose, moi, qui continue de me passionner, mais simplement avec un point de vue différent, quoi.
C'était Noata et les algorithmes, Clou de Girofle et complotiste, un reportage de Jeanne Meyer réalisé par Clémence Gross et mixé par Philippe Thibault. Merci bien sûr à Noata et à la youtubeuse Si c'est faux, attachée de production Jeanne Copet, stagiaire Solène Vanet-Kobach.